Allez, bon, allons-y, c'est le moment de l'agiter.
Oh, j'avais pas vu l'heure.
Et c'est sur l'autre radio.
Parfois, on oublie que derrière chaque tableau, chaque livre, chaque chanson, il y a une petite lumière qui s'allume quelque part. Une lumière qui réchauffe, qui réveille, qui fait croire qu'un autre monde est possible. La culture, c'est ça. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un à côté. C'est ce qui nous fait tenir debout, ce qui nous relie, ce qui nous pousse à rêver quand tout paraît figé. Et même dans les moments les plus durs, dans les crises et les restrictions, il y a toujours une étincelle qui refuse de s'éteindre. Aujourd'hui, on va parler de cette étincelle justement avec Jean-Michel Le Boulanger, un homme qui croit profondément au pouvoir de la culture, un homme qui pense qu'on peut rallumer les soleils, comme disait Jaurès. Alors ce matin, prenez ce moment comme une invitation à espérer, à rêver et surtout à croire que la culture, même en période d'austérité, est peut-être notre plus belle promesse. On parle d'espoir et l'espoir se partage, comme j'ai le plaisir de le faire chaque jour dans cette émission avec toi Maxime. Comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, ça va super et toi Margot ?
Très bien, puisque je t'emmène ensuite avec moi en seconde partie d'émission découvrir une séance ciné-poussette. Tu vas me demander ce que c'est ? Eh bien c'est le cinéma qui ouvre ses portes aux jeunes parents et qui les accueille avec leur bébé. Ça se passe au cinéma Le Vox à Mayenne et on vous en parle en seconde partie d'émission. Cette émission, vous la connaissez bien, justement, elle se termine toujours avec une chronique. Et aujourd'hui, c'est Jean-Michel Guinaudeau qui sera à notre micro pour la chronique et les conseils du bon consommateur avec l'UFC Que Choisir. Voilà, bienvenue à vous, amis auditeurs dans l'agité du local. Je suis Margot et je suis contente de passer ce moment en votre compagnie. D'ailleurs, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'entretien du jour. C'était ma rencontre avec Jean-Michel Le Boulanger la semaine dernière. Écoutez. L'agité du local sur l'autre radio. Jean-Michel Le Boulanger, vous êtes docteur en lettres, maître de conférences, militant associatif de l'éducation populaire, président du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo et bien sûr auteur de l'ouvrage Éloge de la culture en temps de crise, publié aux éditions Apogée. Merci du temps que vous nous accordez. Vous êtes présent aujourd'hui au Reflet à Saint-Berthevin ce 2 février pour animer une table ronde sur le thème de l'austérité culturelle dans le spectacle vivant. Pour commencer, on peut dire que vous défendez une culture essentielle à l'existence, un levier pour réenchanter le monde. Comment est-ce que l'on peut définir ce rôle aujourd'hui dans un contexte de restrictions budgétaires et donc d'incertitude en ce qui concerne la culture ?
Oui, on connaît les contextes et on en connaît aussi les traductions dans un certain nombre de collectivités territoriales. Je crois qu'on a oublié des choses absolument essentielles. Et une des choses essentielles pour moi, c'est que nous sommes en démocratie et que ce qui illustre la démocratie, c'est deux fondamentaux, à savoir la liberté de la presse et la liberté de création. Et nous, dans les démocraties, on a tendance à l'oublier. Or, les totalitarismes, eux, ne l'oublient jamais. Et dès qu'un totalitarisme est à l'œuvre et qu'il arrive au pouvoir, qu'il construit ce que l'on appelle une dictature, la première chose qu'il va faire, c'est de faire taire des journalistes et de faire taire des artistes. Eux, ils n'oublient pas ça. Et nous, on a tendance à l'oublier au nom de la gestion. On est en difficulté budgétaire, donc il faut couper. Où est-ce qu'on va couper ? Ben, on va couper en particulier, et on le voit très clairement dans les pays de la Loire, dans le domaine culturel. Et ça, c'est un renoncement à 150 ans d'histoire, 150 ans de construction progressive de la République, qui ont amené le général de Gaulle, qui n'était pas un dangereux gauchiste, a créé avec André Malraux le ministère de la Culture. Mais pourquoi ont-ils créé le ministère de la Culture ? C'est parce qu'ils avaient vaincu le nazisme, la résistance, les démocraties l'avaient emporté sur le nazisme, et c'était parce qu'ils faisaient face au totalitarisme soviétique. Et ce que disait de Gaulle et ce que disait Malraux, c'est qu'il nous fallait impérativement défendre ce qui nous construisait, notre essentiel, la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi et surtout la liberté de dire, de penser, d'écrire le monde. Et c'est donc la liberté de l'artiste.
Et ce que l'on constate justement aujourd'hui, c'est que les politiques mettent à mal ce paysage culturel pour des questions de gestion financière.
Et c'est très, très, très dramatique parce que au moment même où les démocraties, et on le voit évidemment en Europe, sont attaqués un peu partout dans le monde. Regardez la Russie de Poutine, la Chine, regardez la Turquie, regardez maintenant Trump et Elon Musk, regardez ce qui se passe autour de Milaï, etc. Et au cœur de l'Europe même, la Hongrie, l'Italie, les forces un peu obscures qui sont à l'œuvre, et même en France, le Rassemblement national. Au moment où la démocratie est attaquée, on voit des collectivités territoriales qui sont normalement portées par des républicains, républicains au sens large, enfin des gens qui sont là pour défendre la République et qui coupent également ce qui identifie la démocratie. Et je trouve que c'est un renoncement terrible qui pourrait annoncer le pire.
Vous parlez de la culture comme d'un levier pour réenchanter le monde, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est non seulement un outil démocratique, mais aussi un vecteur d'espoir en période de crise. Pour l'imaginaire collectif, dans une telle période, c'est aussi essentiel.
Oui, absolument. La fonction de l'artiste, c'est de poser question. La fonction de l'artiste, c'est d'interroger. Mais lorsque l'on participe dans une salle, en tant que spectateur ou en tant qu'acteur, par le théâtre amateur, par les musiques amateurs, quand on participe à des expériences artistiques et culturelles collectives, eh bien, il y a des émotions partagées et il y a cette forme de réenchantement du monde, effectivement, que l'on peut vivre très intimement. Regardez le sourire ou les regards des gamins quand des compagnies de théâtre, des musiciens vont ici et là dans des écoles. Enfin, il y a des soleils qui s'allument dans leurs yeux. C'est ça, réenchanter le monde. Et nous ne sommes pas que des individus individualistes confrontés à des écrans. Nous ne sommes pas que des consommateurs passons nos temps dans les rayons des hypermarchés. Nous sommes des êtres aussi de sens et de sensibilité. Et ce que dit l'artiste, ce que dit le projet culturel, tourne toujours autour du sens et du sensible, du sens et du sensible. Et si l'on coupe les ailes à ces projets de sens et de sensible, eh bien, on nous amène à regarder la télévision pendant des heures et à regarder du divertissement que l'on oublie dès le lendemain matin. Voilà. Et ça, c'est terrible, parce que c'est vraiment tourner le dos à un siècle et demi d'histoire d'émancipation, de recul, de citoyenneté. Et c'est dramatique.
Vous pointez du doigt les droits culturels et l'éducation populaire. En quoi ces notions peuvent être des réponses à une crise culturelle que l'on rencontre aujourd'hui, une crise culturelle mais aussi une crise économique?
Oui, tout ce que dit l'éducation populaire, tout ce que disent les droits culturels aujourd'hui, c'est que l'on peut faire avec les gens. Chaque personne a sa dignité, son histoire. Et l'enjeu majeur pour les acteurs culturels, et il faut aussi que les acteurs culturels l'entendent et le partagent, c'est que on ne peut pas vivre dans des entre-soi de sachants satisfaits d'être abonnés à une scène nationale. C'est bien et c'est nécessaire, mais ce n'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que tous les ponts qui peuvent être construits entre l'œuvre et les gens, faire avec des gens, mobiliser des gens. Et je vois ici, on est dans un lieu culturel où il y a des bénévoles qui participent. Et ça, c'est formidable. C'est aussi de l'émancipation. C'est aussi faire avec et pas faire pour. Faire avec et pas uniquement faire pour. Il ne faut pas faire pour les gens. Il faut faire avec des personnes qui ne sont pas que des consommateurs, qui sont des personnes, donc, avec une histoire, des idées, des curiosités, des doutes. Et le projet culturel, un beau projet culturel, doit toujours avoir ça à l'esprit, évidemment.
J'allais vous demander, dans un contexte comme celui-là, avec la montée des inégalités et puis des tensions sociales, comment est-ce que la culture peut continuer à avoir ce rôle d'émancipation et de cohésion sociale, mais avec moins de moyens? Est-ce que donc le bénévolat est une réponse déjà?
Oui, mais rien ne remplacera le professionnel et ce qui était l'exception culturelle française et qui a été quand même assez impressionnante progressivement depuis une soixantaine d'années, depuis la création du ministère de la Culture, c'est que des lieux se sont créés un petit peu partout, c'était la volonté de Malraux, ils ont été relayés par toutes les strates des collectivités territoriales, les communes qui participent ô combien, les départements, les régions, et il y avait une espèce de pacte français suite à l'alliance objective entre le gaullisme et le communisme en 58-59, Malraux et Jean Villard, et on est parti sur les routes en quelque sorte, et les artistes sont arrivés jusque dans les petites villes et les villages, partout, et à chaque fois il y a eu des choses construites avec des gens, enfin, et des regards émerveillés, et puis l'influence d'une œuvre, l'influence d'un livre, l'influence d'un film, enfin, tout ça nous construit. Le drame de la période actuelle, c'est que il y a des collectivités qui se désengagent. Alors on va dire les autres peuvent compenser, ou le bénévolat ici ou là peut compenser, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si une collectivité se désengage, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré, et progressivement on commence à voir des choses assez terribles. C'est une espèce de plan social qui ne dit pas son nom, parce que quand un lieu culturel faisait 20 représentations à l'année, 20 spectacles, n'en fait plus que 15 parce que les crédits ont diminué, ben il y en a 5 en moins. Mais 5 en moins, ça veut dire des intermittents qui n'ont plus les heures, etc., etc. Et progressivement ça construit un plan social qui ne dit pas son nom, parce que c'est pas une grande usine, c'est un intermittent dans tel village, un autre ailleurs, un autre ici, ça se voit pas, c'est un peu inodore, incolore, on ne mesure pas bien les choses, c'est un peu flou, mais sauf qu'à l'arrivée c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est plus gros qu'une grosse usine. L'emploi culturel en France c'est 650 000, combien de dizaines de milliers vont tomber dès lors que les collectivités se désengagent? C'est une situation difficile. Alors pour autant, ben, faut continuer. Voilà. Il faut continuer. Et moi, j'imagine que les forces de la démocratie finiront par l'emporter. Il y a une période difficile, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre. Et je pense, et c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi je vais ici et là, et que je continue à publier, je pense que les forces de la vie finiront par l'emporter, comme elles l'ont fait jadis. Vous savez, De Gaulle était tout seul en juin 40 à Londres. À l'arrivée, il y a quand même des centaines de milliers de résistants dans les FFI, les FTP un peu partout, et les FFL. Mandela était tout seul dans sa prison. Václav Havel était tout seul dans les caves de Prague pendant la dictature. Bon, voilà. Les forces de la vie finiront par l'emporter. Et je vois toute une jeunesse présente un peu partout en France qui est là dans des groupes de musique, dans des compagnies de théâtre, dans toutes les formes artistiques, les plasticiens. Il y a toute une jeunesse et je fais confiance à la jeunesse.
Vous êtes président du festival Étonnant Voyageur qui met justement en avant la diversité des récits, des imaginaires. Comment un événement comme celui-ci, parce qu'on parle de différentes tailles de structures effectivement qui vont subir notamment ces coûts budgétaires, comment un événement comme le vôtre par exemple peut résister aux pressions économiques et rester un espace d'ouverture?
C'est un combat quotidien de convaincre toujours un certain nombre, les collectivités publiques qui nous sont très fidèles, mais aussi et de plus en plus des partenaires privés. Il faut dire les choses de manière les plus prosaïques qui soient. On travaille avec bien plus de partenaires privés aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y a aussi, il ne faut jamais généraliser les propos, il y a aussi beaucoup d'entreprises citoyennes qui sont convaincues que leur propre intérêt, c'est la diversité d'une offre culturelle dans leur propre territoire. Et je vois des entreprises du pays de Saint-Malo en l'occurrence ou de Bretagne qui sont contentes en quelque sorte d'associer leur image à un grand festival qui tient des propos d'ouverture et de valeurs humanistes, et ces entreprises sont aussi fières de nous accompagner. Et après, ben, c'est des partenariats et qui se passent dans la plus grande transparence et qui se passent bien. Il n'y a pas d'injonction de l'entreprise sur la programmation, il y a un accompagnement, et ça se fait, j'allais dire, de responsable à responsable.
Cette réinvention du financement culturel ne doit pas forcément être totalement effrayante quant à la diversité des propositions artistiques.
Non, pas du tout. Je peux dire à partir d'une expérience très concrète que je n'ai aucune pression de quelque partenaire public ou privé que ce soit pour infléchir la programmation. Notre programmation, elle est connue, ses grands axes sont connus, c'est l'ouverture, c'est la diversité, c'est accueillir des écrivains du monde entier à Saint-Malo, dans leur grande différence de regard d'ailleurs, et on est rejoint par tous les partenaires publics évidemment, mais par de plus en plus de partenaires privés. L'entreprise citoyenne, l'entreprise à mission, l'entreprise convaincue de ces nécessités-là, une entreprise pleinement actrice aussi d'une démocratie vivante dans les territoires, ça existe, hein, évidemment.
Quel rôle le citoyen peut-il jouer concrètement justement pour défendre et préserver à son niveau toutes ces valeurs ?
Ben oui, ce sont des valeurs et un des enjeux, c'est bien ça, la parole des citoyens individus et la parole des citoyens organisés dans des associations, dans des groupements divers. On est dans un monde de plus en plus individualiste, on est dans un monde de plus en plus consumériste, et un des grands enjeux, c'est en fait le conflit en nous, en chacun d'entre nous, entre le citoyen et le consommateur. Si on regarde notre histoire récente, le consommateur prend parfois la place du citoyen, et c'est terrible. Parce que même le citoyen agit de plus en plus en consommateur. C'est-à-dire qu'on achète un parti à une élection, il ne plaît pas, on va le jeter comme on jette une savonnette et on va prendre un autre parti à l'élection suivante. Ce sont souvent des comportements de consommateurs qui sont décidés à la dernière minute. On voit des études assez sidérantes sur le fait que des électeurs choisissent dans l'isoloir pour qui ils vont voter. Et les valeurs sont assez éloignées. Les questions de sens et les questions profondes qui touchent à l'esprit de la République, ils sont parfois un peu éloignés. Et ça, c'est un enjeu vraiment essentiel. Le citoyen face au consommateur. Et nous sommes tous individuellement confrontés à ce conflit interne-là qui touche toute la société. Et donc, là encore, moi, je suis un optimiste pathologique. Je sais que la période est assez difficile et que des grands médias télévisuels, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui sont des écrans en permanence allumés avec des informations qui chassent l'autre dans l'instantanéité, les images et les émotions qui se chassent l'une l'autre en accentuant le regard sur quelques drames liés souvent d'ailleurs à des immigrés, etc. etc. On voit un certain nombre de chaînes comme ça, où est la citoyenneté là-dedans? Où est le regard critique, l'esprit critique? On assène des vérités qui sont parfois très discutables et on façonne l'électorat, on façonne un citoyen qui doit beaucoup à l'émotion du consommateur et bien moins au sens et à la raison. Mais il y a des combats à mener, évidemment. Toujours.
Pour terminer justement avec la montée de l'extrême droite en Europe, un peu partout, les débats sur l'éducation, sur la culture, même sur les mutations technologiques, est-ce que c'est ça selon vous peut-être le plus grand défi culturel, mais le défi de l'époque finalement, ce rythme effréné et puis ce système tourné beaucoup plus vers le capitalisme et la consommation?
Oui, je crois que là on est au cœur des 10, 20, 30 ans à venir et autour de quelque chose qui me semble essentiel, c'est le divers, la diversité. C'est-à-dire que j'ai été élu à la région Bretagne, j'entendais le Rassemblement National refuser les budgets culturels parce que ça ne leur plaisait pas. C'était leur raison, c'était ce qui était énoncé. Le discours était extrêmement simple, on vote contre parce que ça ne nous plaît pas. Mais la question n'est pas de savoir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. La question, c'est de favoriser la diversité des regards. C'est ça l'enjeu d'une république, l'enjeu d'une démocratie. Une démocratie, c'est pas le droit de vote. En Russie, il y a le droit de vote. Le droit de vote, comme conséquence du débat public, c'est ça qui fonde une démocratie. Le débat public, c'est la diversité des opinions. Voilà. Et ce n'est pas « ça me plaît, ça me plaît pas ». On n'est pas à liker comme sur Facebook ou sur je ne sais quel réseau social. C'est pas ça l'enjeu d'une politique publique dans une république, dans une démocratie, c'est de favoriser la diversité des opinions et que chacun, chaque citoyen puisse construire en raison ses propres opinions. Ça s'appelle l'émancipation. Et ça, c'est le grand combat des décennies à venir face aux forces totalitaires. Et moi, j'aimerais bien qu'au lendemain de la mort de Samuel Paty et qu'au lendemain de la mort de Charlie Hebdo, on se rappelle de ça. Parce que Samuel Paty, il était porteur d'une multiplicité de livres. Samuel Paty, c'est une bibliothèque. Et celui qui assassine Samuel Paty, il est porteur d'un livre, qu'il a mal lu d'ailleurs, mais d'un livre. Et ça, c'est le combat des dictatures face aux démocraties. Les démocraties sont porteuses du pluriel, de la diversité. Et les totalitarismes sont porteuses d'une idée, d'une nation, d'une langue, d'une idéologie, d'un livre. C'est le grand combat.
Eh bien, on va se quitter sur ces questions, Jean-Michel Le Boulanger. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé.
Merci.
L'agité du local sur l'autre radio. Votre émission quotidienne continue, mais avant de passer à la suite, Maxime, est-ce que tu as un titre à nous proposer ?
Bien sûr, on va écouter Angel of My Dream de Jad.
Something crazy.
Être parent, c'est un nouveau rôle, mais cela ne devrait pas signifier renoncer à des moments pour soi. Le cinéma Le Vox propose une solution unique en Mayenne, des séances ciné-poussettes adaptées aux jeunes parents et leurs tout-petits. On se plonge maintenant en immersion dans ces instants où culture et parentalité se conjuguent à merveille. Au cinéma Le Vox, la lumière est tamisée, le son ajusté et les rires des bébés se mêlent au film à l'écran. Bienvenue dans une séance ciné-poussette où parents et nourrissons trouvent leur place pour vivre un moment de cinéma sans pression.
Anaëlle Durand et je suis chargée du jeune public au cinéma Le Vox à Mayenne.
Donc là aujourd'hui, on assiste à une séance ciné-poussette. C'est un dispositif qui existe déjà depuis combien de temps ?
Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place en mars 2023 avec trois partenaires, donc Les Possibles, Croque les mots marmots et Mayenne Communauté. C'est un film à destination des parents qui sont accompagnés de leur bébé et donc on a mis tout un système en place pour que ce soit adapté. Que ce soit un film pour les parents, mais que tout le reste soit adapté au bébé, quoi.
Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant une séance ciné-poussette ? Qu'est-ce qui change par rapport à une séance classique ?
La salle est aménagée pour les parents et les enfants. Elle est aménagée aussi pour les poussettes, puisqu'on a privilégié la salle qui n'a pas de marche, par exemple. Donc c'est plus pratique pour les déplacements en poussettes. On a aussi choisi de laisser une lumière tamisée tout au long de la séance pour faciliter les déplacements, les changements de couches, etc. On a aussi adapté le son au bébé. C'est des professionnels de la petite enfance et de la culture. Donc c'est avec eux qu'on a travaillé pour mettre en place tous ces dispositifs-là. Et donc c'est avec eux qu'on a diminué le son. Donc il y a la lumière tamisée, le son moins fort, un tapis d'éveil à disposition, un chauffe-biberon, une table allongée. Et les sous-titres, les films qu'on choisit sont toujours des films français, plutôt type comédie ou des films tout public, assez larges. On fait aussi en fonction de l'actualité cinématographique et de ce qui peut plaire.
On parle de séances qui ont lieu une fois par mois.
C'est des séances qui sont tous les deuxièmes mardis du mois à 14h.
Est-ce que c'est un dispositif qui existait déjà ailleurs, dont vous vous êtes inspiré, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui a été créé de toutes pièces ici à Mayenne ?
Ça existe surtout dans les grandes villes, donc à Angers, Rennes, c'est surtout là qu'on s'est inspiré. Après, en Mayenne, c'est le premier du département, le premier ciné-poussette du département.
Anaë, la séance va bientôt commencer. Quel film est-ce que l'on regarde aujourd'hui ?
C'est 20 Dieux, donc c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un film qui a plutôt bien marché auprès du public ici, donc c'est comme ça aussi du coup qu'on choisit les films.
Aujourd'hui, ces questions d'inclusion sont importantes pour le cinéma Le Vox à Mayenne ?
Oui, oui, oui. C'est un peu un de nos objectifs aussi, c'est de faire venir de plus en plus de publics de tous les horizons. Et donc là, il y a les parents qui sont un peu plus éloignés, mais il y a d'autres publics éloignés aussi qu'on essaye de faire venir. On essaye de travailler dessus tout le temps, régulièrement.
Et alors, vous êtes très preneur des suggestions des spectateurs ?
Mais surtout pour les ciné-poussettes, on s'était dit en fait que le but c'était quand même de faire venir les parents. On l'a noté dans notre petite brochure que s'ils avaient des suggestions de films, ils pouvaient nous envoyer un mail ou nous le dire à la fin de la séance. Par exemple, le mois dernier, on a passé Enfant phare et c'était une suggestion d'une maman qui était venue la fois d'avant. Donc oui, ça nous aide beaucoup en tout cas pour choisir les films.
Tiens, justement, la séance se termine. Allons voir ce qui se dit du côté des parents.
Oh, Solène Lefebvre, bah, maman d'une petite Hélène.
C'était la première fois que vous assistiez à une séance ciné-poussette ?
C'est la deuxième fois que je viens. C'est vraiment agréable, quoi, parce que le son, c'est vrai qu'il est moins fort, puis bah, ça permet d'être avec les bébés et de rencontrer d'autres mamans. Donc, On a toujours un peu peur des pleurs et tout ça, donc là on sait que bon, bah, il y a plusieurs bébés, donc voilà.
Moi c'est Clotilde et je suis la maman d'un petit Silouane et voilà, je suis venue au ciné-poussette pour la première fois aujourd'hui.
Il a quel âge Silouane ?
Il a 3 mois.
Comment vous avez entendu parler de ces séances ?
Grâce à ma belle-sœur qui m'a invitée à la rejoindre aujourd'hui et voilà, c'est une bonne expérience. Je recommande aux jeunes parents, c'est sympa, on n'a pas de pression avec notre bébé, on sait qu'il peut pleurer. Il n'y a que des bébés dans la salle, donc non, c'est très sympa.
Donc vous venez de passer un bon moment.
Oui, bah moi j'ai eu de la chance, il a dormi tout du long, donc oui, clairement, j'ai bien profité.
On ne terminera pas cette émission sans une intention bienveillante, et cette intention, c'est celle de l'UFC Que Choisir de la Mayenne, avec Jean-Michel Guinaudot.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, la qualité de l'eau qui arrive à nos robinets a fait récemment la une de l'actualité. Pourquoi ?
Bonjour Margot. Eh bien, parce que l'on découvre, grâce à des analyses réalisées par des associations, que l'eau qui nous est vendue comme pure, indemne de toute pollution, ne l'est pas autant que cela. En fait, on sait tous que l'eau du robinet contient autre chose que de l'eau, mais en quantité maîtrisée, de façon à ne pas nous en rendre compte. Et que si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des interdictions de la boire ou de s'en servir pour faire la cuisine.
Qui contrôle la qualité de l'eau ?
Eh bien, c'est l'Agence Régionale de Santé, ce qu'on appelle l'ARS. La loi fait obligation aux fournisseurs d'eau de transmettre à l'usager, au moins une fois par an, les résultats des analyses réalisées. C'est l'ANSES, au niveau national, qui définit les limites maximum autorisées pour chaque polluant. Le calcaire, les nitrates, les résidus des produits phytosanitaires et bien sûr, les micro-organismes pathogènes. Et localement, il peut y avoir aussi une pollution due à la dégradation des canalisations en plastique qui relarguent dans l'eau du CMV ou chlorure de vinyle monomère. Ces canalisations en PVC ont été utilisées il y a une quarantaine d'années pour accélérer le raccordement des maisons, car facile d'utilisation. Et là on découvre ce phénomène il y a quelques années. Remplacer ces canalisations coûte très cher. Et quand on sait où elles sont, d'autant plus que souvent, elles ne raccordent qu'un logement.
On parle aussi des PFAS, qu'est-ce que c'est ?
Alors là, ce sont les alkyles perfluorés et polyfluorés. Pour faire simple, on dit PFAS, ou polluants éternels, car ils sont très persistants dans l'environnement, et surtout s'accumulent dans les organismes. Ils sont reconnus comme étant à l'origine de plusieurs pathologies et cancérogènes. Cette famille regrouperait plus de 4700 produits très utilisés dans de nombreuses activités humaines. L'Agence européenne de l'environnement s'intéresse de très près à ce problème. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de normes communes, si bien que chaque pays définit ses propres règles. Et notre association, avec l'association Génération Future, a fait faire des analyses pour rechercher 33 substances dans 30 communes françaises. Et les résultats, que l'on retrouve sur le site de quechoisir.org, peuvent inquiéter. Le TFA, ou acide trifluoroacétique, résidu des pesticides agricoles, a été détecté dans 24 cas. 10 à 11 PFAS différents ont été découverts dans 2 échantillons. Mais ces résultats restent conformes aux normes françaises, les taux étant inférieurs à 100 nanogrammes par litre pour la somme des 20 PFAS détectés. Mais notre association regrette que cette norme soit bien plus laxiste que la norme américaine, qui est de 4 nanogrammes par litre pour 2 PFAS, ou danoise même qui est de 2 nanogrammes par litre pour 2 PFAS, et demande donc une évaluation précise des risques, un renforcement des normes, et surtout une limitation de l'utilisation de ces produits pour ne pas augmenter la pollution. Elle incite les parlementaires à voter la loi en cours de discussion allant dans ce sens.
On peut quand même boire de l'eau du robinet du coup ?
Eh bien oui, on peut se poser cette question. Ces substances étant dans les sols, il y a forte chance pour qu'elles soient également présentes dans les eaux en bouteille. Et beaucoup plus chères. Et les quantités restent quand même très faibles. Mais il faudrait sans doute s'intéresser aux usines chimiques qui produisent ces polluants éternels qui vont s'accumuler dans nos organismes.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ces informations. Pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
Eh oui, l'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18 par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval au Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services pour des animations ou le traitement des litiges. À bientôt.
Merci Jean-Michel. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Michel Le Boulanger, merci à Jean-Michel Guinaudot et merci à toi Maxime. Alors qu'est-ce qu'on écoute ce soir sur les ondes de l'autre radio ?
On débute la soirée à 19h. On retrouve, comme tous les mercredis, Novorama. Dans cette émission, nous découvrons de nouveaux albums indie rock et pop électro avec en plus des chroniques et un interview d'un artiste ou d'un groupe émergent.
Merci Maxime. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Hugo Desnos, un artiste qui actuellement réalise une fresque dans le gymnase de Dan, représentant les habitants et réalisé avec d'ailleurs un très beau projet participatif. D'ici là, laissez votre journée se dérouler comme un fil en prenant le temps d'apprécier chaque nœud, chaque boucle, chaque instant, vous le méritez. Et puis s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.